Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Décryptage. C'est la dernière semaine de notre émission avant une pause pour l'été. Et une question ce soir, la Convention citoyenne pour le climat peut-elle contribuer à une relance verte en France? Cette convention, ce groupe de 150 personnes tirées au sort, a fini ses travaux hier. 150 propositions ont été remises à la ministre de la Transition écologique, parmi lesquelles renégociation du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, interdiction de la pub pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, rénovation énergétique de tous les bâtiments dans les 20 ans à venir. Et parmi ces propositions, eh bien, les citoyens proposent d'en soumettre 3 à référendum, dont la création du crime d'écocide. Alors, catalogue de bonnes intentions ou point de départ d'un nouveau modèle de société, on en parle pendant les 20 prochaines minutes. Deux invités sont en ligne avec nous. Bonsoir Loïc Blondiot.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à la Sorbonne, Paris 1, et vous êtes membre du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne pour le climat. Avec nous également par téléphone, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, entre la création de cette convention et la fin des travaux hier, il y a eu la crise du coronavirus qui a encore plus mis en avant certains dérèglements liés à l'environnement. L'urgence aussi d'y remédier, mais il faut bien rappeler, Loïc Blondiot, que cette convention citoyenne a débuté ses réflexions, ses travaux, bien avant tout cela. Ça fait plusieurs mois déjà.
Oui, elle est directement issue du mouvement des Gilets jaunes et elle peut être analysée comme une réponse d'Emmanuel Macron à la demande de démocratie plus directe qui a été exprimée par les Gilets jaunes. Donc le démarrage de la convention s'est fait en octobre, mais la déclaration qui a lancé la convention date d'avril 2019, donc ça fait plus d'un an qu'on travaille sur cette convention.
Emmanuel Macron, vous en parliez, rencontrera les citoyens, justement, s'exprimera sur leur travail dans une semaine. Qu'est-ce que vous en attendez, Jean-François Julliard ?
Nous, on attend simplement que le chef de l'État respecte sa promesse. Donc, dès le début, il a dit que ces mesures seraient transmises sans filtre ou accueillies sans filtre. Donc maintenant, on va voir ce qu'il veut dire et ce qu'il a voulu dire exactement par cette expression-là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui que les 150 citoyennes et citoyens ont travaillé avec un véritable engagement, un professionnalisme, une rigueur qui a fait qu'ils ont abouti à des mesures qui nous apparaissent comme étant ambitieuses, radicales, pour une bonne partie à la hauteur de l'enjeu environnemental et climatique. Donc on a le sentiment que les citoyens et les citoyennes ont fait leur part du boulot. Maintenant, c'est à Emmanuel Macron de faire la sienne et de faire en sorte que ces mesures ne restent pas lettre morte. Donc on attend réellement qu'il fasse en sorte qu'on les mette en œuvre, parce que le temps du débat est passé. Maintenant, il y a eu un débat de qualité qui a été mené. Maintenant, c'est le temps de la mise en œuvre et il faut que cette mise en œuvre elle se fasse de manière très rapide parce que l'urgence climatique est là.
Pendant tous ces débats, justement, pendant tous ces mois, l'ombre du mouvement des Gilets jaunes a plané un peu sur ce qui se disait. On l'évoquait à l'instant, cette convention citoyenne, elle avait été mise sur pied juste après la crise sociale, puis après le grand débat qu'avait voulu le président français. Et l'objectif, c'était non seulement de parler d'environnement, mais aussi de préserver la justice sociale. Comment est-ce que vous avez travaillé pour articuler les deux, Loïc Blondiot ?
Oui, là, c'était effectivement la demande, la commande, et je dois dire que c'est ce qui fait la force de la délibération qu'ont mené les 150 citoyens. L'idée était de faire des propositions pour diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. Et ce qui est très frappant quand vous réunissez 150 citoyens qui viennent de tous les milieux, de tous les territoires, qui ont tous les niveaux d'éducation, en fait, qui sont suffisamment diversifiés pour prétendre représenter la société française, c'est que cette question de la justice sociale, elle est revenue en permanence dans leurs travaux. À chaque fois qu'ils ont proposé une mesure, ils se sont efforcés de l'accompagner soit de compensation pour les catégories sociales les plus pauvres, soit de dispositifs de formation pour la reconversion des professions concernées. Et cette cette dimension de justice sociale était omniprésente. On n'a pas affaire là aux élucubrations d'écologistes hors sol, etc., comme on leur reproche quelquefois. Je suis vraiment frappé par la virulence, finalement, de la réception de leurs travaux. Au contraire, tout a été pesé et mesuré en fonction de l'impact que ça aura sur la société.
Alors, on le voit lorsqu'on se rend sur le site de la Convention citoyenne, les propositions que vous avez faites, elles ne sont pas présentées une par une, mais par thème. Les transports, évidemment, le logement, le travail, la consommation, il y en a d'autres. Et je voulais savoir, est-ce que c'est comme ça aussi que se sont déroulées les délibérations et le vote, Loïc Blondiaux, par thématique ?
Oui, alors on a voulu partir de 5 thématiques qui correspondaient à l'expérience des citoyens, donc se déplacer, se nourrir, consommer, produire et travailler et se loger. Et en fait, il y a 5 groupes de travail qui ont travaillé de manière approfondie sur chacun de ces 5 thèmes et ça a été le cœur du processus, des week-ends qui se sont succédés après les premiers week-ends d'information. Et puis après, on est revenu en session plénière avec l'ensemble des citoyens et il y a eu une appropriation des travaux des différents groupes de travail. Et effectivement, je crois que partir de l'expérience des citoyens, donc de leur vie quotidienne, ça a été quelque chose de relativement utile. Il aurait peut-être été intéressant mais on peut regretter rétrospectivement qu'il n'y ait pas eu de groupe de travail spécifiquement consacré à l'énergie. Voilà, ça ne s'est pas fait comme ça, je pense que la mayonnaise finalement a prise.
Alors, il existe déjà en France un certain nombre de dispositions, des lois pour protéger l'environnement. Le problème, en fait, c'est qu'elles ne sont pas toujours appliquées avec rigueur. Est-ce que vous pensez, Jean-François Julliard, que ces nouvelles propositions peuvent apporter un réel changement dans la manière dont on considère l'environnement dans le pays ?
Oui, j'ai le sentiment, parce que effectivement, ces propositions, elles viennent de ces citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort, qui sont effectivement représentatifs de la société. Donc, je pense qu'elles sont, j'ai le sentiment bien accueilli par beaucoup de gens aujourd'hui. Tout le monde ne s'y retrouve pas dans toutes ces mesures-là, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, il y a eu une reconnaissance du travail accompli. Maintenant, encore une fois, ces propositions, elles sont là et c'est tant mieux. Mais ce qui va faire la différence, c'est leur mise en œuvre, leur mise en application. Ce ne sont pas des idées ou des propositions qui peuvent transformer le monde. C'est quand on les met en œuvre réellement. Donc maintenant, ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on va prendre ces mesures-là et les appliquer. Il y a beaucoup de mesures qui sont très concrètes et qui peuvent changer de manière très concrète et très profonde, et c'est une bonne chose parce que c'est nécessaire nos modes de vie, que ce soit la manière avec laquelle on va se déplacer à l'avenir, notre consommation alimentaire, la manière avec laquelle on se loge, on se chauffe, la manière avec laquelle on consomme et on produit les biens dont on a besoin pour vivre. Donc il y a beaucoup de mesures extrêmement importantes. Maintenant, il faut les appliquer. On n'a pas besoin d'attendre pour ça. Il y a beaucoup de mesures qui n'ont pas besoin d'une loi supplémentaire, qui peuvent être mises en application assez rapidement, à condition, encore une fois, qu'il y ait une réelle volonté politique de le faire au plus vite.
Justement, pour l'instant, ce ne sont que des propositions, mais dans la forme, elles ont été travaillées pour être prêtes à être utilisées soit par l'Assemblée nationale, soit pour un référendum. C'est bien ça, Loïc Blondiaux ?
Oui, la plupart du temps dans les exercices de démocratie participative de ce type, les citoyens en restent à des recommandations générales, et on sait très bien que lorsque ces recommandations sont reprises par les experts ou par les politiques, il y a un risque de déformation ou de mauvaise traduction très important. Et là, l'originalité de la Convention citoyenne, c'est d'avoir adjoint au travail des citoyens un comité de jury qui s'est efforcé de traduire directement en texte de loi leurs propositions lorsque la chose était possible et lorsque ces propositions relevaient du droit français, hein, parce qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont des recommandations, mais qui visent le cadre européen. Et en fait, une fois qu'on a ces 50, il y a une cinquantaine de propositions qui peuvent être directement aujourd'hui reprises par l'Assemblée particulier. Lorsqu'on les regarde et lorsqu'on regarde l'ensemble, tout ça dessine une cohérence et un changement de société possible. Et donc cette alliance entre la précision des textes et l'ambition, parce que les citoyens tiennent beaucoup à cette dimension de cohérence. Il faut que le gouvernement, il faut que le président de la République prenne l'ensemble. Ce serait la seule manière véritable de traduire sa promesse du sans-filtre. Il faut désormais, maintenant que les citoyens ont rejeté l'option référendaire pour la quasi-totalité des propositions, sauf celles qui portaient sur la Constitution et sur l'écocide, parce qu'elles amorçaient une discussion générale, il faudrait, dans l'idéal maintenant, qu'un projet de loi climat soit transmis à l'Assemblée et que les députés prennent leurs responsabilités et, par rapport au travail qui a été accompli par les citoyens, soit le reprennent, soit expliquent pourquoi ils n'acceptent pas de le reprendre. Et à mon avis, c'est comme ça que devrait, dans l'idéal, se conclure cette expérience inédite.
Donc c'est le président, c'est la majorité qui va décider de la suite à donner à ces mesures. Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean-François Julliard, Emmanuel Macron avait promis de les soumettre sans filtre au vote des élus ou au référendum. Est-ce que ça vous paraît normal que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif reprennent la main? Ou est-ce qu'il aurait fallu que ces propositions les engagent davantage?
Nous, on aurait voulu que ces propositions les engagent davantage. Maintenant, il faut examiner dans le détail celles qui doivent faire l'objet d'une loi et celles qui peuvent être mises en application directement par le biais par la voie réglementaire, sans forcément même avoir besoin d'une loi pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent être appliquées quasiment immédiatement si le gouvernement le décide ainsi. Parce que le risque, c'est que Emmanuel Macron dise effectivement qu'il transmet sans filtre ses propositions au Parlement, mais finalement c'est la majorité parlementaire qui va filtrer ses propositions, même si Emmanuel Macron lui-même ne le fait pas. Et on sait que ce Parlement, le Parlement et la majorité parlementaire La République En Marche, n'a pas toujours joué le jeu de la transition écologique ces derniers temps. On a vu tout un tas de mesures qui ont été votées qui n'allaient pas dans le sens de la transformation écologique dont on a besoin, à commencer par les récentes discussions et validations des différentes moutures du projet de loi de finances rectificative qui ont accordé des milliards d'euros à des entreprises polluantes sans aucune contrepartie sociale et écologique. Donc quelque part, il y a une incohérence entre ce qu'a dit Emmanuel Macron pour défendre le climat, entre les propositions qui sont sur la table maintenant et ce qui a réellement été voté par la majorité parlementaire. Donc c'est là qu'est le plus grand risque, c'est que le Parlement finalement détricote un peu tout ce travail-là, ce qui serait absolument dramatique.
Alors, certaines ONG, certains spécialistes de l'environnement regrettent le manque d'audace de ces propositions. Certains parlent de catalogue de bonnes intentions. Parmi les reproches qui reviennent souvent dans ce que j'ai lu en préparant cette émission, il y a le flou et le manque de propositions sur la fiscalité. Est-ce que vous partagez ces critiques, Jean-François Julliard ?
On peut toujours dire, très honnêtement, on est souvent très critique, nous, chez Greenpeace, parce que l'urgence climatique est là, parce qu'il faut aller plus vite, parce qu'il faut aller plus loin. Mais très honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes choses dans ces propositions-là. On aurait toujours pu aller plus loin encore sur la consommation alimentaire, on aurait pu aller plus loin encore sur les transports. Mais il y a beaucoup de mesures qui sont déjà très spécifiques et qui ne sont pas justement des grands principes et un catalogue de bonnes intentions. Il y a beaucoup de choses qui, si elles sont réellement appliquées comme elles ont été formulées dans ces propositions, vont réellement transformer nos sociétés. Alors encore une fois, on peut faire les grincheux et trouver que ça aurait pu être encore mieux. Mais si déjà on arrive à transposer dans la vie réelle ce qui a été écrit et comme ça a été écrit et formulé par les 150 citoyennes et citoyens, déjà, très honnêtement, on ira bien plus loin que tout ce qu'on a fait ces derniers temps.
Alors, l'un des reproches que j'ai beaucoup vu revenir, c'était le fait d'avoir mis de côté la fameuse taxe carbone qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, cette taxe sur le carburant. Pourquoi ce choix, Loïc Blondiaux ?
Ah, c'est un choix qui a été fait par les citoyens très tôt et face au sentiment qu'ils ont pu avoir au tout début, parce qu'il ne faut pas oublier le niveau de défiance qu'avaient les citoyens à l'égard du dispositif et du cadre, et le sentiment qu'ils avaient d'être possiblement instrumentés pour faire passer à travers eux la taxe carbone. Et ils ont, d'un certain point de vue, marqué leur distance par rapport à cette proposition. Mais certains nous reprochent d'avoir laissé les citoyens instrumentalisés par les experts. Or, la plupart des experts, dans ces questions de lutte contre le changement climatique, estiment que la taxe carbone est la meilleure des options. Et le fait que les citoyens aient refusé, très vraisemblablement aussi parce qu'ils ne voyaient pas, alors à tort ou à raison, comment concilier la taxe carbone avec la justice sociale, le fait qu'ils aient refusé cette taxe carbone est la meilleure des démonstrations du fait qu'ils n'ont pas été instrumentalisés par les experts avec lesquels ils ont été confrontés.
En fait, justement, puisque vous nous en parlez, Loïc Blondiaux, j'avais une question là-dessus, puisqu'effectivement, pendant toute la durée des travaux, les 150 citoyens qui avaient été tirés au sort ont été accompagnés par des experts. Comment s'est articulé le travail entre des participants qui sont par définition non spécialistes, c'est pour ça qu'on les a choisis, et ces experts? Est-ce que c'est possible de prendre de la distance avec la parole, vis-à-vis de la parole de ces experts?
Oui, je crois. C'est-à-dire que bon, il y a trois moments en fait au cours desquels les experts ont pu intervenir. D'abord, dans un premier temps, pour les informer, pour leur donner le socle d'information de base absolument nécessaire pour qu'ils se repèrent dans des questions qui sont, il est vrai, extraordinairement complexes. Ensuite, dans un deuxième temps, en fait, ils ont, il y a eu un groupe d'experts hein, dont la liste est parfaitement publique, qui les a aidés à définir finalement leur proposition, mais dans un dialogue relativement équilibré. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire, on n'a plus affaire à des citoyens qui se laissent avoir par un discours d'autorité à partir d'un certain moment. Quand vous avez travaillé plusieurs mois sur une question, vous êtes capable de poser les bonnes questions aux experts et de refuser effectivement les interprétations que vous ne souhaitez pas. Et puis dans un troisième temps, il y a eu effectivement l'apport absolument considérable des juristes qui ont fait un travail tout à fait étonnant de traduction de ces propositions en loi lorsque c'était possible. Mais je crois que ce dialogue, il faut parler de dialogue entre les experts et les citoyens, n'a rien à voir avec une instrumentalisation, et il était indispensable à la réussite de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas se leurrer d'un certain point de vue. 150 citoyens ne peuvent pas, du jour au lendemain, se substituer à tout le travail qui a été fait sur ces questions-là par des experts.
Jean-François Julliard, il nous reste moins d'une minute, mais j'aurais bien aimé avoir votre sentiment si vous deviez choisir une, deux, trois propositions principales à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Ce seraient lesquelles ?
Moi, je dirais toutes celles qui ont été formulées, par exemple, sur la question des transports et de la consommation, parce qu'elles me paraissent comme urgente. Alors bien sûr, toutes les mesures sont urgentes, mais celles qui consistent à réguler la publicité sur les activités climaticides, par exemple, me paraît être nécessaire à être mise en œuvre très rapidement. Une sorte de moratoire ou d'interdiction de construction de nouvels aéroports, parce qu'on a vu et on s'est rendu compte à quel point l'impact du transport aérien était important dans ces questions climatiques. L'alternative végétarienne dans tout ce qui est restauration collective pour réduire sa consommation de produits animaux. Donc il y a comme ça quelques mesures qu'on pourrait mettre en œuvre très honnêtement très rapidement et qui feraient beaucoup de bien dans cette lutte extrêmement essentielle contre le dérèglement climatique.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace en France, et Loïc Blondiaux, professeur de sciences politiques à la Sorbonne Paris 1 et membre du comité de gouvernance de cette convention citoyenne pour le climat. Merci aussi à toute l'équipe de Décryptage, Fabrice Violet, Éléonore Krenik, Patrick Adam, et merci à vous qui nous écoutez. Restez sur RFI, dans un instant vous retrouverez Guillaume Nodin pour le débat du jour. Trois invités et une question. La France doit-elle produire des statistiques ethniques ? La réponse, c'est dans quelques secondes. Très bonne soirée à tous.